parce qu'ils t'appartiennent. Seigneur, ce qui sortira de ma bouche t'appartient. Et Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et qui est de la chair ne soit pas entendu. Mais Père, que tu puisses te révéler à travers ta parole à nos cœurs et que tu puisses encore nous instruire, nous enseigner dans toutes tes voies, afin que dans ces temps difficiles qui ont déjà commencé, l'Église corps de Christ puisse être distinguée des autres. Et que cela puisse permettre à ceux qui te cherchent de te rencontrer à travers tes enfants. Alors merci pour ta parole, merci pour toute chose et que ta bénédiction demeure au milieu de nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc il est vrai, comme l'a dit ce matin Antoine, donc on voit les informations qui se passent, donc on sait qu'on rentre dans des temps qui sont les temps de la fin, on le sait, il n'y a aucun souci, mais ce qui est important, c'est nous, comment on se situe nous dans ces moments-là. Parce que quand je me suis converti il y a plus de 40 ans, on pouvait dire « on verra ça demain », autant aujourd'hui, on dira, on verra ça tout avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui de Dieu en toutes choses. Et peut-être que ça va un peu perturber les gens, mais Jésus a commencé à juger son Église. C'est important. Et quand Jésus dit, je suis en train de juger l'Église, nous, on a tendance à comprendre sanction. C'est le premier mot qui vient. Sanction. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit, je vais mettre en lumière, dans l'intimité, une situation de façon à ce que le jour où réellement je viendrai, vous ne soyez pas pris à défaut. C'est important, c'est-à-dire de nous situer aujourd'hui, comment on se situe par rapport à Christ. Déjà par rapport à la sainteté et à sa royauté, qui est déjà une grande part de notre vie. Donc, comme j'aime toujours commencer par donner le titre du message afin que vous puissiez avoir une vision et une lignée de ce que je vais vous partager, du parfum de la honte à celui du pardon. Ok ? Du parfum de la honte à celui du pardon. Et vous allez voir que des fois les apparences sont trompeuses et on peut penser que certaines personnes, même dans la Bible, pourraient être pleine de grâce, gentille, où jamais on pourrait voir quelque chose de mauvais en elle. Mais pourtant, quand on creuse la parole de Dieu, on voit certaines situations. C'est bien la peine que je mette 5 minutes et que ça s'en va au bout d'une minute. Le premier verset, c'est juste un verset qui va un peu démontrer l'attitude de l'Église aujourd'hui. Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc en fait, en gros, c'est-à-dire, c'est pas, il y en a qui commencent bien et qui finissent mal, mais là, le Seigneur dit, c'est la fin qui compte. C'est pas le début. Quand tu nais, mais c'est lorsque tu meurs, c'est là le plus important. Dans quelle situation tu te trouves, où tu vas. D'accord ? Donc, alors quel rapport avec une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum? C'est là ce que je vais expliquer. Mais retenez ce verset, il est important. Aujourd'hui, moi je parle toujours de processus. Il y a des processus de transformation et de conviction qui sont différents les uns aux autres. On ne peut jamais se comparer. Dieu fait d'une façon avec un, une façon avec un autre, parce qu'il connaît nos cœurs. Il va être un peu plus direct avec certaines personnes parce que un peu trop rebelles. D'autres qui sont trop timides, il va essayer de les secouer un peu, les encourager pour leur dire « Lève-toi, bouge-toi, je suis avec toi. » Donc, ne vous comparez pas les uns les autres. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des attitudes qui sont bonnes et il y a des attitudes qui sont mauvaises et c'est ce que Dieu veut gérer. Le temps appartient à Dieu dans tout ce qu'il a créé. Comme Dieu nous a créés, le temps lui appartient. Et souvent on se dit, Seigneur, pourquoi tu mets tant de temps à accomplir les promesses que tu m'as données, dans lesquelles je suis impliqué? Et souvent on a tendance à dire, le temps passe et je ne vois rien. Encore quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est que le temps, Dieu l'a créé pour nous. Lui, il est intemporel. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile de comprendre les actions de Dieu dans leur temps. Or, si nous, on est pleinement convaincus que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, quoi qu'il nous arrive, tout est géré dans son temps. Et encore une fois, certains disent, non, si je pourrais mourir un peu plus tard, ça serait bien. Mais si Dieu décide de nous reprendre aujourd'hui, c'est que c'est dans son temps établi. Et il faut accepter toute chose. Donc, quand Dieu met en lumière l'état de notre cœur, il ne l'expose pas en public pour nous humilier, mais il agit d'abord dans l'intimité. Parce que ce que je vais vous partager, certains pourraient croire que ça serait une façon d'humilier. Non. N'oubliez pas qu'au début, Dieu parle dans les cœurs. Il révèle une situation qui n'agrée pas. Mais si on demeure ferme dans notre situation de péché ou d'incompréhension, quelque chose qui n'est pas glorieux pour Dieu, oui, de toute façon, c'est un péché, eh bien, à un moment donné, la Bible dit qu'il va mettre en lumière toute chose. Sauf que, vaut mieux pas arriver à ce moment-là. Je vous le conseille. Vaut mieux pas arriver, bien qu'on pourrait dire que c'est une humiliation, mais c'est encore pour nous permettre de nous repentir. Chose qu'il a faite le soir de la Sainte Cène avec Judas. Il lui a donné encore une possibilité, même s'il était écrit qu'il était le fils de la perdition, on pouvait concevoir qu'il avait encore une possibilité de se repentir. Mais on n'en est pas là. Et là, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une femme connue dans les évangiles qui se nomme Marie de Béthanie. Alors vous savez, son frère Lazare qui est mort, on trouve cette situation, cette histoire qu'une fois dans la Bible, dans l'évangile de Jean. On aurait pu croire que les trois autres écrits, que Matthieu, Marc et Luc, auraient pu raconter aussi cette histoire, parce qu'elle est assez spectaculaire en tant que telle, la résurrection de Lazare. Pourtant, une fois, par contre, Marie, dans les quatre évangiles, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et donc, on va faire un peu, on va raconter un peu l'histoire de cette famille. Donc, il y a Lazare, Marie et Marthe. Et on va finir jusqu'à Marie. Mais regardez bien dans cette histoire, là, il y a des versets que je n'ai pas donnés, que j'ai fait exprès, que je lis parce qu'ils sont courts. Si on lit Jean 11, 1, il y dit « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Là, on voit une forme de connaissance commune. C'est-à-dire que Dieu révèle une famille qui est connue dans un village, dans une ville. Voilà, comme nous, on est connus dans notre lotissement ou dans notre quartier, on parle de quelque chose de commun qui peut être... Il peut y avoir des commentaires négatifs, positifs de cette famille, peu importe. On connaît Marthe, Marie et Lazare. Et au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Connaissance intime. Mais la parole de Dieu, elle est super bien écrite. Jamais il y a une erreur. Et l'interprétation, vous faire attention, regardez bien. La connaissance intime, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Il manque un nom. Pourquoi il n'a pas dit Marthe, Marie et Lazare? Ben on va comprendre. Ne vous inquiétez pas, il aimait autant Marie que Marthe et Lazare. Sauf que à ce moment-là, quand Jean décrit ce passage, il y avait une proximité plus grande entre Jésus, Marthe et Lazare que vous croyez qu'il avait avec Marie. Beaucoup pensent que Marie serait comme, si on dirait au langage aujourd'hui, une sainte. Mais à ce moment-là, bien précis, il y a une petite différence Vous savez qu'il est dit que chaque nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand Jésus nomme directement les noms, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, prenez l'histoire de Lazare le pauvre avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, on ne sait même pas comment il s'appelle, et on s'en moque, quelque part, parce qu'il est perdu. Par contre, on connaît Lazare. Quand Jésus définit des noms, ce n'est pas pour rien. Quand il nomme, ce n'est pas pour rien. Et alors, il dit, cette famille connaissait Jésus depuis un certain temps, et Jésus avait de la considération pour elle. Donc c'est important. Jésus aimait cette famille, il avait de la considération, puisque il prend le temps de les visiter assez souvent pour qu'il y ait une relation un peu plus intime entre certaines personnes. On va oublier Lazare, concentrer sur Marthe et Marie. D'abord, qui sont Marthe et Marie? Ces deux sœurs, ça c'est moi qui ai réfléchi par rapport aux Écritures, je pense que Marthe était la sœur aînée. Et dans Luc 10, je crois que celui-là, tu l'as, Maxime, Luc 10, 38 à 42, il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc c'est là qui me fait dire que je pense que Marthe était l'aînée parce que c'est Marthe qui reçoit le maître. On va dire, c'est elle qui gère la baraque. Je pense, on pourrait même penser que Lazare aurait peut-être été plus jeune. D'accord? Et donc, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Comment Jésus finit? Il finit avec le futur. Quelque chose qui ne lui sera point ôté. Ce n'est pas au présent. Il fait une remarque à Marthe. D'ailleurs, Marc, comment Marthe appelle Jésus? Il l'appelle Seigneur. Encore une fois, on n'appelait pas Seigneur les gens comme ça. La plupart du temps, on l'appelait Maître Jésus. On l'appelait Rabbi. Ou prophète. Ou rien. Mais là, elle dit Seigneur. Donc c'est ce qui nous fait comprendre qu'il y a une proximité un peu plus grande entre Marthe et Jésus que ne l'avait sans doute Lazare et Marie. En l'occurrence, Marie. Et Marthe ose interrompre Jésus qui lui était en train de parler. Donc si elle ose interrompre Jésus, c'est qu'il y avait une forme d'intimité, de communion entre les deux. Ils se connaissaient depuis un certain temps et elle savait que Jésus, en fait, qui était Jésus. Et elle pouvait se permettre quelque part de lui dire, Jésus, regarde, attends, dis un peu à ma sœur de venir m'aider. En gros, c'était une situation pour moi récurrente. Je pense que cette situation était récurrente. Et elle profite de Jésus pour un peu reprendre sa sœur. Donc en gros, ça veut dire que Marthe bossait, travaillait, et que sa sœur était un peu, on va dire, pas laxiste, mais se laissait un peu aller. Vous savez, on est honnête, c'est souvent qu'on profite de quelqu'un pour piquer un autre, pour lui dire, oh, bouge-toi là, tu vois, ça arrive souvent. Ils ont dû se prendre la tête, les deux sœurs. Mais là, elle en profite, qu'est le maître, qu'est le Seigneur, en disant, tu ne peux pas lui dire, Seigneur, parce que moi, je n'y arrive pas, en gros. Donc, votre vision de Marie va commencer à changer. Elle va commencer à changer. Parce que nous allons commencer à changer. Et à voir les gens, non pas selon leur apparence, mais selon le cœur. Alors, je ne dis pas que Marie avait un mauvais cœur. Je ne parle pas de ça. Je dis, l'apparence peut être souvent trompeuse. Souvent trompeuse. Et donc, là, on se rencontre, la proximité qu'avait Marthe, et on le voit encore dans Jean 11, 20, tu ne l'as pas, Maxime, tu ne l'as pas. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Là, c'est au moment où son frère Lazare est mort. Elle sait que Jésus arrive. Donc, il y a toujours cette proximité, cette intimité entre Marthe et Jésus, et elle court. voir Jésus. C'est elle qui se déplace. Marie aurait pu suivre. Elle entend la même chose. Marie reste assise. Il est dit, très simple, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, j'en suis persuadé, il n'y a pas la même complicité de cœur et d'esprit entre Jésus et Marthe et Jésus et Marie. Mais parce que la connaissance de Marthe vis-à-vis de Jésus est plus grande que Marie, Jésus va reprendre Marthe différemment qu'avec Marie. Puisque vous savez qu'à un moment donné, il lui dit, si tu serais là, si tu serais venu à temps, il ne serait pas mort. Et Jésus parle avec Marthe en lui disant, si tu connaissais, si tu croirais, je suis la résurrection, la vie, oui, je sais, il va ressusciter au moment où tu vas revenir, donc la situation, elle est là. Mais quand c'est Marie qui rejoint Jésus, parce que c'est Jésus qui appelle Marie, Marthe arrive et dit, va, le maître t'appelle. Elle n'aurait pas bougé. Elle dit la même chose, Marie. Si tu serais venu, il ne serait pas mort. Et il ne lui dit rien. Il ne lui fait aucune remarque. En gros, sachez que ta marche avec Christ, ton engagement avec le Seigneur, ta volonté de le suivre, ta volonté de lui offrir ta vie, fait que Jésus, avec le droit que tu lui donnes, peut te reprendre, peut t'interpeller, te corriger même s'il le faut, mais toujours pour ton bien. Parce que nous, on a pensé qu'il réprimandait un peu Marthe quand tu lui fais cette remarque. Non, il lui dit, rappelle-toi, tu me connais, tu sais qui je suis, tu n'as pas à me poser ce genre de questions puisque tu connais la finalité des choses. C'est souvent quand on sait que Christ nous donne une parole dans la foi et nous donne un verset dans la Bible qui va nous mettre droit, supporter la tempête, supporter l'épreuve et tout, et que l'on remette en question cette même parole. Le Seigneur va dire, mais pourtant tu me connais. Tu sais que quand je te parle, je te dis la vérité. Et quand je t'affirme quelque chose, je l'accomplirai. Aucune des paroles que je sème ne reviendra à moi sans avoir fait son effet. Donc quand Dieu vous fait une promesse, elle est véritable. Mais quand on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas le même cœur, qui n'a pas cette connaissance, qui n'a pas cette intimité, qui n'est pas né de nouveau encore, Jésus intervient différemment. Il ne fait pas de remarques. Ce qui m'amène à dire pour moi-même, Marie n'est pas née de nouveau. On va le voir. Marie n'est pas née de nouveau. Maintenant, on va prendre le temps de s'intéresser à Marie, puisque c'est elle qui nous concerne, et à travers elle, c'est l'Église. À travers elle, le Seigneur me dit, voilà, en partie, l'état de l'Église. Nous sommes dans un temps de repentance, et j'aime bien demander au Seigneur, je me repentirai, si ça se dit, de tout, mais dis-moi de quoi ? Il n'y a rien de plus problématique de dire à quelqu'un, Jeanne, repens-toi. Elle va me dire, oui, mais de tout mon cœur, dis-moi de quoi. Parce que sinon, la pauvre, je la mets plutôt dans un état de culpabilité. Parce qu'elle va me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Elle va commencer à gamberger. Et puis c'est plus la folie qu'autre chose. Par contre, si vous demandez au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Dieu répond toujours, toujours. Il n'est pas là en train de condamner parce qu'il dit il faut bien que je prenne mon temps de juge. Non. Si le Seigneur intervient dans l'Église, c'est pour révéler quelque chose et non pas pour sanctionner, mais pour amener à la vie, pour guérir. Donc, on va lire maintenant Jean 11, 1 à 2. Excusez-moi. Jean 11, 1 à 2. Vous allez voir que là aussi, il y a quelque chose d'assez spécial. C'est que c'est rare dans la Bible quand celui qui écrit le livre parle du futur et révèle quelque chose qui va se passer qui n'a pas encore eu lieu. C'est rare dans la Bible. Or, il est dit, Jean 11, 1 à 2, « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade. Or, cette situation n'est pas encore arrivée concernant Marie. C'est rare, hein, dans la Bible qu'il ait révélé quelque chose qui n'a pas encore lieu, à part Apocalypse. Mais là, c'est une histoire. On est dans une réalité d'histoire, puisque si on suit la chronologie, on parle de la mort de Lazare. Jean 12, 1 à 7, ça tu dois l'avoir, Maxime, Jean 12, 1 à 7. 6 jours avant la Pâque, donc on ne sait pas combien de jours il s'est passé entre la mort de Lazare, sa résurrection et la Pâque, on ne connaît pas le temps exact établi. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Juste, je m'arrête là. Lazare, ce n'est pas l'invité principal, il était là. Et encore une fois, l'invitation n'est pas faite par Lazare, la famille de Marthe et Lazare. Je pense que Marthe était là pour servir. Si on gratte un peu, elle devait savoir bien faire la cuisine et elle devait faire l'intendance dans certains moments, pour certains repas, elle devait servir. Elle était appelée pour faire l'intendance des repas. Donc il est dit, à ce moment-là, on lui fait un souper. C'est important, c'est le soir. Ça se passe le soir. Tenez bien compte de ce moment. C'est important, le souper se passe le soir, ce n'est pas à midi. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, voyez, encore une fois, il y a une anticipation sur quelque chose qui va se passer. Dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Entre parenthèses, 300 deniers, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Si on prendrait le minimum chez nous, ça ferait au moins 15 000 euros. Entendez-moi bien, un vase de parfum, j'ai travaillé dans les parfums, je sais ce que c'est. Je connais la valeur des parfums. Je sais ce que c'est qu'un essence de parfum. Je sais ce que ça valait, 100, 200, mais là on parle d'une livre. Une livre de parfum, c'est pas beaucoup, c'est 500 millilitres. 15 000 euros, je n'ai pas connu. Je ne connaissais pas, je n'ai pas eu entre les mains cette valeur. Et là on parle de parfum pur. Pur, donc. Moi, quand je travaillais, je n'avais pas l'occasion de travailler dans des concentrés aussi purs. Il y en avait, mais je n'ai pas eu d'entre les mains. Mais quand on parle de pureté, c'est que le parfum à 15 000 euros, c'est pas rien. C'est important, ces petits détails. Donc, ce que j'ai lu dans Jean 12, on le retrouve exactement dans Matthieu 26, versets 6 à 13, dans Marc 14, 3 à 9 et dans Luc 7, 36 à 48. On retrouve cette même Marie dans les quatre évangiles. Pareil, qui vient briser le vase d'albâtre de nacre de parfum pur, qui le répand sur Jésus, qui mouille ses cheveux et qui essuie les pieds. On retrouve cette situation dans les quatre. Et dans les quatre situations, ça se passe chez Simon. Donc, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas chez Marthe que ça se passait. C'est chez Simon. Alors, si on regarde bien, si Dieu insiste dans les quatre évangiles de ces quatre situations, c'est qu'on va aller quelque part de très très important. Qui est donc cette Marie qui détient chez elle un parfum d'une valeur d'un an de salaire? Qui peut détenir ça à cette époque, alors qu'elle n'était pas riche, ni notable, ni quelqu'un de la haute société. Sa sœur était servante. Imaginez un peu que moi, j'avais de la famille qui était ouvrier et que moi, j'ai des millions d'euros à la maison. Vous croyez que je vais les laisser dans l'état d'ouvrier? Pensez 2 minutes à ça. Pensez que si j'étais très riche, je laisserais ma famille aller travailler au SMIC? Jamais de la vie. Donc, qui est cette Marie qui a en elle un parfum, elle l'a, chez elle, d'une telle valeur? Comment cette femme a pu se procurer l'argent pour acheter un parfum d'une telle valeur? Posez-vous la question. Moi, je me la suis posée. Quand le Seigneur m'a arrêté là-dessus, je dis, mais c'est pas possible, ça. Quel est l'intérêt? Vous avez 15 000 euros alors que vous n'êtes pas riche, que vous devez trimer tous les jours. Quelle est la première chose que vous ferez avec 15 000 euros? Surtout pas aller acheter du parfum. Non, on est logique. La Bible est très logique. Vous allez investir cet argent, peut-être parce que vous avez besoin d'un nouveau frigo, machine à laver, enfin, ou une voiture parce que vous avez besoin d'aller travailler. Mais le jour où vous allez investir 15 000 euros dans un parfum, c'est que vous gagnez 15 000 euros par mois. Et vous dites, au 13e mois, je m'offre un parfum à 15 000 balles. Et encore. Et encore. Je ne sais même pas si on aurait la pensée d'aller acheter un parfum à 15 000 euros, même si on gagnerait 15 000 euros par mois. Mais pourtant, cette Marie possède entre les mains un flacon de 15 000 euros. D'où vient cet argent? Et c'est là, quand vous lisez la Bible, et que je vous encourage à la lire, vous vous arrêtez 2 minutes, et vous réfléchissez, et vous vous mettez à la place de Marthe, de Lazare, qui était présent hein, ce soir-là. Hein. Marthe et Lazare sont présents ce soir-là. Qu'est-ce que la frangine vient faire avec un flacon de parfum de 15 000 euros? Philo me dit, je me suis acheté un parfum de 15 000 euros. T'as pris les... Ouh. D'où ils viennent? T'as gagné le temps? Posez-vous la question. La Bible, elle est faite pour qu'on se pose des questions. La Bible est faite pour qu'on s'examine. La Bible est faite pour qu'on puisse... C'est un miroir de notre vie et qu'on puisse se connaître, parce qu'on ne se connaît pas, mais la Bible nous révèle notre identité. Alors, on va voir qui était cette femme. Et là, il y a beaucoup qui vont être choqués. Beaucoup vont tomber des nues parce que beaucoup pensaient que Marie, c'était celle qui était au pied de Jésus. Ça ne remet pas en question cette situation. Luc 7, s'il te plaît, 37 à 39. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Marie, ok, d'accord. C'est la même situation, hein. Le pharisien qui les avait invités, il s'appelle Simon, hein, si on lit bien, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. En fait, Marie est une prostituée. Qui est choqué? S'il vous plaît, levez la main. Qui pensait que Marie était Marie la Sainte? S'il vous plaît, qui est choqué? Dites la vérité. Ah, vous n'êtes pas choqué? Vous le saviez alors? Vous saviez tous que Marie était une prostituée? Hein? Vous saviez tous qu'elle était prostituée? Alors moi, je suis le dernier à le savoir, excusez-moi. Dieu met en lumière toute situation, non pas pour condamner. En fait, là, le pharisien, le Simon, il voulait simplement contrecarrer Jésus en disant, attends, tu te laisses faire? Tu laisses faire cette situation? Mais si tu savais vraiment qui était cette femme. C'est pour ça que Marie, comment une prostituée, elle vit quand? Elle vit la nuit. Elle n'est pas au regard des gens. La prostitution, ça se fait dans les ténèbres. Parce que tout se sait. D'ailleurs, si lui, il est au courant, beaucoup d'autres devaient le savoir. Vous imaginez un peu la situation de Marthe et de Lazare? Et pourtant, Jésus aimait Marie. Mais à ce moment-là, Marie n'avait pas conscience encore. Avant qu'elle arrive ce soir-là, elle n'avait pas conscience de cette situation. Mais il y a quelque chose qui se passait. C'est que quand elle entendait Jésus, quelque chose l'apaisait. Quelque chose lui faisait du bien. C'est pour cela que le matin, ou au moment où il devait servir à table à midi, quand c'était le coup du râlage de la sœur, qui lui dit « Seigneur, tu ne peux pas lui dire qu'elle vient de m'aider ?» Il dit « Non, 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 Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Jésus savait à l'avance la situation. Jésus connaissait à l'avance cette situation. Marie, cette sœur, elle devait être belle et élégante. Quand elle sortait en tant que prostituée, eh bien, elle devait bien sûr... Qu'est-ce qui attire un homme? Si, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai connu dans des milieux où certaines personnes sentaient mauvais. Il y a tendance à avoir un espace. Ce n'est pas que vous n'aimez pas la personne, mais ça sent mauvais. Et ça répulse un peu. Ce n'est pas bon. Bon, bref, on ne s'attarde pas avec la personne. Or, quand une personne sent bon, on a tendance à s'approcher. Maintenant, moi, ayant travaillé dans les parfums, quel est l'intérêt de se parfumer? Quel est l'intérêt de se parfumer? J'ai entendu le mot, dites-le. Tout à fait. C'est cacher quelque chose. Le parfum sert à cacher quelque chose. Et là, si on joue dans le truc spirituel, le parfum, qu'est-ce que se mettait Marie, c'était pour cacher son péché. Elle cachait sa vie, sa double vie. Ça attirait les gens du monde, elle gagnait sa vie, parce qu'encore une fois, il faut de l'argent pour pouvoir quand même acheter un parfum. Parce que même une prostituée de bas de gamme, je ne pense pas qu'elle devrait avoir, je ne sais pas comment ça se passe, ne me demandez pas, je ne sais pas, mais pour quand même aller dépenser 15 000 euros, même si je suis une prostituée, il faut que j'ai un contact avec une gente masculine élevée. D'ailleurs, il est pharisien. Il avait des sous, eux. Donc, elle avait un contact avec une population assez aisée. Ça veut dire qu'elle était avantagée quelque part, c'est qu'elle allait dans les lieux où le village n'allait pas. Donc, elle vivait en secret, c'est-à-dire que peu dans le village savaient vraiment qui elle était. Je pense que c'était seulement la haute société de l'époque qui connaissait Marie. Encore une fois, je ne pense pas que le paysan du coin avait assez d'argent, les paysans du coin, pour lui fournir jusqu'à une année de salaire qu'elle puisse mettre de côté et le dépenser dans un parfum. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu dit enfin qu'il y a dans nos vies un parfum qui dissimule une double vie. Et beaucoup dans le corps de Christ se parfument spirituellement pour cacher un péché. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et dans l'Église, corps de Christ, lorsque le parfum est bon, on ne va jamais chercher ce qu'il y a et ce qui est caché derrière. Parce que c'est tellement évident que c'est pour ça que j'ai commencé qu'une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Parce que on ne va jamais dire non, celui-là est... Non, il ne peut pas faire péché, celui-là il n'est pas méchant, celui-là il est honnête et tout et tout. Mais si Dieu révèle ça ce matin, aujourd'hui, et qu'il dit il y a un parfum de la honte au milieu de son corps, c'est que certains se parfument pour cacher quelque chose de honteux. Malgré qu'ils en soient au courant, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à sortir de cet état de honte, et alors ils continuent dans leur péché à plus se parfumer. Et il y a le parfum du mensonge, le parfum de la manipulation, pour éviter qu'on aille vous poser des questions qui sont un peu dérangeantes. En gros, laissez-moi vivre. C'est pour cela que le mensonge, la honte, c'est dans les ténèbres. La prostitution, c'est dans les ténèbres. Je suis sûr que Marie n'était pas habillée de la même façon la nuit que le jour. La nuit, elle devait être maquillée, le jour, elle était normale, parce qu'on ne pouvait pas dire, tiens, tiens, comment ça se fait, Marie, que tu es super bien sapée la journée, que tu es super bien maquillée, tu sens super bon, tu fais quoi de plus? Vous comprenez? L'ennemi est malin, il te dit, ça, c'est honteux. Mais de façon qu'on ne mette pas le doigt dessus, qu'on te laisse tranquille, cache, camoufle. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un temps, où je vous ai dit, où Jésus commence à juger l'Église, non pas dans la sanction, mais il commence à travailler chacun d'entre nous pour dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est ce qui s'appelle une repentance connue. Connue. Parce que Jésus, quand il parlait pas, il jugeait pas, et il ne condamnait pas Marie quand elle était à ses pieds. Mais il parlait à son cœur. Il lui dit Marie dans son cœur. Parce qu'à un moment donné, il est même dit dans un des, je crois que c'est celui de Marc, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il devait commencer à parler au cœur, par le Saint-Esprit, à parler au cœur de Marie en lui disant, je sais ta double vie, je la connais, mais je ne te jugerai pas, je ne te condamnerai pas si tu viens et tu te repens de cette situation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une fois que vous entendez l'amour de Jésus qui ne vous condamne pas, lorsque vous êtes là et que vous voyez un homme qui se dit Dieu lui-même, qui a ressuscité son frère, elle l'a vu, elle était présente, femme pécheresse encore à ce moment-là, elle voit que ce Jésus est capable de ressusciter son frère. Il doit dire, il y a quelque chose qui se passe et je ne veux pas m'en échapper. Je ne veux pas passer à travers cette bénédiction, quitte à perdre ma réputation. La réputation vaut mieux que le parfum. Ça dépend laquelle de réputation. Et là, elle dit, quitte à perdre ma réputation, je vais me dévoiler. Et là, je vais vous le dire, il faut faire fort. Hein. Alors là, il faut faire fort. Hein. Parce que ce genre de péché à l'époque, c'était la lapidation. Il faut faire fort. Hein. On a amené une femme prostituée devant Jésus et les pharisiens ont dit, la loi de Moïse condamne à la lapidation ce genre de femme. Vous comprenez pourquoi elle était en cachette? Vous comprenez parce qu'elle savait exactement si elle était révélée, elle était lapidée. Nous, on n'a pas conscience que si on garde notre péché dans le secret, on est lapidé différemment. C'est la mort qui nous attend. Parce que Dieu connaît toutes choses. Là, elle pensait aux hommes. Elle avait raison, elle ne connaissait pas comme nous. La nouvelle naissance, elle ne savait pas ce que c'était. Mais entendant Jésus qui ne la condamnait pas, mais je suis sûr qu'elle entendait le message qui disait « Je suis la résurrection et la vie ». Et quand elle a dit « Jésus, tu es la résurrection et la vie ?» Mais oui, parce que Lazare est mort, mais il est ressuscité. Quand elle a vu la résurrection, elle a dit « Mais moi, je veux vivre ». Mais pour vivre, il fallait qu'elle se repente. Moi, jamais, sauf si le Saint-Esprit me saisit, jamais j'aurais osé faire ce qu'elle a fait. Elle est allée le soir. Pourquoi c'est important le soir? Parce que normalement, c'est à ce moment-là où elle part changer de vie. Le soir, au souper. D'accord? Et elle a dit non, je ne prendrai plus le chemin habituel de la prostitution. Je ne prendrai plus ce chemin du péché. Je ne prendrai plus le chemin de la condamnation. Je ne prendrai plus le chemin de la mort. J'ai fini. Maintenant, je connais qui est la résurrection. Je n'irai plus sur le chemin. Je n'écouterai plus ta voix, Satan. Je n'écouterai plus la voix monde, en parlant de la société. Je ne serai plus comme vous. Je ne ferai plus comme vous. Je me moque de gagner autant d'argent. Je sais que l'argent, c'est le mot principal aujourd'hui, même au milieu de l'Église. L'apparence et l'argent sont deux choses qui travaillent en même temps pour détruire l'Église. Excusez-moi de ma violence. C'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. L'apparence accompagnée de l'argent est une destruction au milieu du peuple de Dieu. Là, on parle d'une prostituée, mais on pourrait faire l'étalage de plein de choses. Je me souviens, une parenthèse véridique, il y avait un homme qui s'appelait Bill Machin Chouette, là, c'était un grand pasteur qui prêchait sur l'évangile de la prospérité aux États-Unis. Cet homme était tellement riche que par jour, il disait dans son livre qu'il avait une rentrée d'argent $1 million par jour. Pour l'Église, hein ! Un jour, le fisc lui tombe dessus, non pas parce qu'il avait oublié de déclarer quelque chose. Et il fait 1 an de prison, si mes souvenirs sont bons. Et dans sa prison, il rencontre un homme qui voulait lui casser la figure. Alors, le gars, il lui dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous m'en vouliez comme ça ? Il me dit, c'est à cause de toi que je suis en prison. Ah bon ? Il me dit, oui. Tu prêchais dans notre église qu'il fallait absolument que vous ayez de l'argent, sinon c'est que vous n'étiez pas béni. Donc, qu'est-ce qu'a fait cet homme ? À cause de l'apparence et du jugement, eh bien, il a fait des crédits pour acheter une belle bagnole, il le dit, une belle voiture, une belle maison. Bien sûr, comment il ne pouvait pas payer ? En Amérique, tu ne payes pas, tu vas en prison. Eh bien, il se retrouve en prison. Pourquoi ? Parce qu'un pasteur lui a dit, si tu n'as pas une belle maison et une belle voiture, c'est que tu n'es pas béni. L'apparence et l'argent. L'apparence et l'argent. D'ailleurs, Jésus dit aux soldats, contente-toi de ta solde. Pourquoi tu veux gagner plus ? Pourquoi tu cherches à gagner plus ? Tu vas être fatigué. Et quand tu seras à la retraite, tu seras épuisé pour avoir gagné quelque chose que d'ailleurs que tu n'as plus. Il y a combien de crédits qui se font maintenant ? Mais des crédits spectaculaires qui n'ont pas lieu. Bien sûr, vous me dites de vous acheter une maison, c'est différent. Mais des fois, on fait des crédits spectaculaires pour n'importe quoi. Pour un téléphone portable, excusez-moi, du peu. C'est des doubles vies, ça. Quand on montre quelque chose alors que ce n'est pas la réalité, c'est bien quelque chose de caché. La foi en Christ, Dieu dit, il ne manquera jamais rien dans ton assiette. C'est général, le blé, le moût et le vin et l'huile. C'est bien une promesse de Dieu. Et c'est Dieu qui enrichit. Ce n'est pas nous qui nous enrichissons, c'est Dieu qui nous enrichit de divers moyens. Mais lorsque par notre propre volonté, on cherche à s'enrichir en faisant ceci, en faisant cela, en prenant du temps, parce qu'à l'arrivée, qui est-ce que nous lésons ? Qui est-ce que nous volons ? Nous volons le temps qui est normalement à Dieu. Nous volons l'engagement que nous avons donné à Dieu. Parce qu'on dit, ben, j'ai plus le temps de te servir Seigneur, parce que j'ai besoin de plus et toujours plus. Parce que j'ai une apparence. J'ai une réputation à défendre. Mais Marie, quand elle a entendu que Dieu lui disait « Ne t'inquiète pas, tes péchés te sont pardonnés. » Qu'est-ce qu'a fait Marie ? Elle a échangé le parfum de la honte pour le parfum du pardon. Elle a dit, je vais répandre. Alors, symboliquement, ça a une forme de symbolique. Quand Jésus a pris nos péchés, il a pris quelque chose de mauvais. Le péché, c'est mauvais en soi. C'est impur, ça sent mauvais. C'est tordu, le péché. Personne n'en veut. C'est la souffrance, c'est la maladie et tout. Il prend. Marie savait que la seule personne qui pouvait accepter ce parfum pourri, écoutez-moi bien, Marie savait que la seule personne qui pouvait récupérer et accepter ce parfum pourri, c'était Jésus. Jésus a accepté notre péché pourri. Comprenez bien que quand Jésus parle dans les cœurs avec cet amour, cette grâce, cette bénédiction, il te dit, encore une fois, je ne veux pas te sanctionner, je veux que tu vives. Alors elle a dit, tout ça, c'est le produit du péché. Ce parfum d'albâtre, c'est 15 000 euros, c'est le produit du péché. Le seul qui peut transformer ce péché et me rendre ma véritable identité, c'est toi, Jésus. La crucifixion n'avait pas encore eu lieu, le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu, mais seules les paroles de Christ suffisaient à dire à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. C'est pour ça qu'il dit à Marthe, la place où elle est, plus tard, vous la comprendrez, ce qu'elle est en train de faire. Parce que Jésus voyait le processus de transformation qui l'amenait à la vie. Marthe, qui connaissait Jésus, qui l'appelait mon Seigneur, n'avait pas vu le processus de transformation. Bien sûr, parce que c'est quelque chose de personnel. Dieu ne va pas étaler le péché en public aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Mais il dit en ton cœur, ce péché-là, si tu le déposes à la croix, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Marie a déposé ce parfum et elle a embaumé toute la pièce, tout le lieu. Au début, elle embaumait sa chambre de la honte. Elle était embaumée de la honte et d'un coup, elle devient un parfum qui embaume tout l'entourage. Mais attendez, rendez compte un peu comme c'est merveilleux ce processus de Dieu. Bien sûr, Judas, lui, il dit, mais franchement, on aurait pu gagner des sous, on aurait donné aux pauvres. Vous savez comment il s'appelait, le pauvre, à qui il voulait donner l'argent, Judas? Vous savez comment il s'appelait, le pauvre? Il s'appelait Judas. Il s'offrait à lui-même. Il s'offrait à lui-même. Il dit, oui, moi, les 15 000, je sais quoi en faire. Je sais quoi en faire. Mais elle n'a pas peur. Et elle a rempli, elle a oint de parfum Jésus. La naissance, il vaut mieux la fin que le début. Je reprends le début. Rappelez-vous, Ézéchiel, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Elle aurait pu mourir jeune, lapidée, parce que c'était la loi de Moïse à l'époque. Et personne n'aurait dit le contraire. Elle serait morte. Lazare et Marie auraient pleuré. Mais c'est ça. Mais Jésus a pris le temps, comme il le fait depuis je ne sais pas combien d'années. Il prend le temps, avec chacun d'entre nous, de nous amener à un processus de vie. Mais à un moment donné, le choix nous incombe. C'est Marie qui a décidé de se rendre dans ce lieu. Au lieu d'aller dans le lieu de la mort, elle est allée dans le lieu de la vie. Et elle a choisi de redémarrer une vie nouvelle. Une vie nouvelle parce qu'il est dit, et c'est la seule personne encore, ou peut-être, des fois Antoine, tu as un souvenir, ou toi là, qu'il est dit qu'un acte aura des répercussions pour plus tard. L'acte qu'elle a fait, il est dit que dans le futur, c'est-à-dire chez nous, à cette époque, l'acte qu'elle a fait aura des répercussions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas rien ce qui s'est passé ce fameux soir au souper. C'est rien. Et pour finir, parce que moi j'aime bien le concret, aujourd'hui il est encore temps de changer de vie et de vivre à la lumière de Christ. Car le temps est proche et tout ce qui se fait, qui sera fait dans les ténèbres sera révélé la lumière et aux yeux de tous, c'est dans Matthieu. Et voilà pourquoi nous sommes encore en temps de repentance. Il y a le parfum qui couvre l'idolâtrie au sein de l'Église. Ce parfum couvre l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie, selon vous? Ce n'est pas vous prosterner devant une statue, ça en fait partie. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Christ, tout simplement. Quelque chose qui prend la place de Jésus. Et lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, quelque chose prend la place de Jésus. Puisque Jésus nous enseigne à nous pardonner les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Quand ton travail devient une priorité et que le temps que tu passais avec Christ, tu l'as réduit à cause de ton besoin, ça devient une idolâtrie parce que ta foi s'est déplacée. En fait, la foi, elle existe toujours, mais elle s'est déplacée. Ce n'est plus la même foi. Je n'anticipe pas. Elle se déplace. Et souvent on dit, mais j'ai toujours la foi. Tu as la foi en ta santé, tu as la foi en ton portefeuille, tu as la foi en tes parents qui prient pour toi. Alors que c'est à toi de le faire. Maman, papa, tu ne pourrais pas prier dans cette situation-là, j'ai un examen. Alors que normalement, c'est à toi de le faire. Hein. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Christ et qui fait, je le répète, je l'avais dit la dernière fois, que lorsque, des fois, il y a des engagements dans l'Église, l'engagement dans l'Église régresse parce qu'il y a l'engagement au concours de pétanque. C'est une blague, ça. Hein. Mais ça veut tout dire. Nous arrivons à un temps où un grand réveil arrive. J'arrête là-dessus, mais j'ai reçu un titre qui m'a défoncé la tête. Alors vous allez me dire, ça, souvent, Seigneur te défonce. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent que je prends des claques. C'est un jeu de mots, et je vous laisse simplement le titre. C'est un jeu de mots. L'Église qui s'excuse. Là, il y a un jeu de mots. C'est depuis 15 jours que Seigneur me terrasse avec ça. L'Église qui s'excuse. Je vous dis, c'est un jeu de mots. Or, aujourd'hui, je voudrais finir par prier pour que ceux qui ont été touchés et que le Saint-Esprit a mis en lumière, que cette situation de péché caché par un parfum de la honte, devienne maintenant le parfum du pardon. Et c'est entre toi et le Seigneur. Aujourd'hui, c'est entre toi et le Seigneur. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est entre toi et le Seigneur. Alors, éternel Dieu, merci Père pour ta grâce que tu nous fais, parce que jamais tu nous sanctionnes. Oui, comme l'a dit Alain la dernière fois, les bontés de l'Éternel nous poussent à la repentance. Et là, tu nommes, tu mets le doigt sur la repentance. Seigneur, il y a de l'idolâtrie dans la vie. Et Seigneur, cette idolâtrie t'empêche pleinement, toi, de t'exprimer au travers de nous. Cette idolâtrie nous empêche d'être bénis comme tu le voudrais. Ce n'est pas toi qui ne peux pas bénir. Nous fermons la porte à la bénédiction. Tu dis, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir le ciel pour vous, en toute situation. C'est nous qui fermons le ciel. Alors, éternel Dieu, il y a un processus que tu as commencé depuis un certain temps. Tu as envie de t'exprimer avec autorité et puissance à travers le corps, à travers l'Église. Mais c'est nous qui t'en empêchons. Alors, à cause de ça, moi, je me repens devant ta face. Parce que si toutes les fois où j'aurais obéi quand tu m'as demandé de faire ceci ou cela, ou chaque fois que tu m'as averti de ne pas faire ceci ou cela, j'avais obéi, j'en serais moi-même pas à cette situation-là. Et l'Église peut-être n'en serait pas là, parce que je n'ai peut-être pas fait la part qui m'incombe. Or, Marie a choisi la bonne part, tu dis, Seigneur, qui ne lui sera jamais enlevée, de t'écouter, d'entendre et de se responsabiliser en venant te demander pardon par la repentance. Alors, éternel Dieu, tu parles au cœur de tes bien-aimés et Seigneur, change nos vies, transforme-nous et que le regard que nous aurons sur nous-mêmes soit un regard d'amour. Parce que la réputation vient de toi et je veux cesser de te dénigrer, de te discréditer à la face des gens. Et tu as dit dans Ézéchiel 36, je me sanctifierai à travers vous devant la face du monde. Le monde verra à travers nous que tu es Dieu. C'est ça que tu veux. C'est ça la réputation que tu nous donnes. La réputation d'être des enfants obéissants en toutes choses. qui ont donné leur vie, mais qui ne sont pas promptes à la reprendre. Si je t'ai donné ma vie, Seigneur, ce n'est pas pour la reprendre. Alors pardonne-moi. Pardonne-moi. Et que tu puisses agir avec puissance dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs, comme tu le fais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.